Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. En commençant, on doit vous dire que cet épisode est une présentation des boutiques Eros et compagnie. Et si vous allez sur le site internet d'Eros et compagnie et que vous utilisez le code HISTOIRE15, eh bien, vous aurez un magnifique rabais de 15% sur tous vos achats coquins en ligne. Evelyne, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Ça va. Très excitée par notre sujet d'aujourd'hui parce que c'est un sujet qui nous a été demandé à plusieurs oui. reprises.
Elle est très populaire, effectivement. Et pas juste, je crois, chez notre public. Mais en général, quand on met des photos d'elle ou quand on parle d'elle d'une façon ou d'une autre, si vous voulez des likes, notre personnage d'aujourd'hui est une machine à likes.
Influenceuse avant son heure, j'adore!
Voilà!
Donc aujourd'hui, on va parler de l'impératrice Sissi. Mais c'est quoi son vrai nom?
Elisabeth de Whistleback.
De Whistleback.
Ou on peut dire Elisabeth, oui, ou Elisabeth de Bavière aussi, parce qu'elle est la fille du duc Maximilien de Bavière. Alors, Elisabeth de Bavière, ça fonctionne aussi.
OK, parce que moi, j'ai, si je suis bien honnête, ma seule référence de Sissi, je suis même pas sûre que j'ai déjà vu un vrai portrait d'elle. Tu sais, moi, ma seule référence, c'est le film qui passait oui. le dimanche après-midi tout le temps à TV. Le film de Sissi avec la belle actrice qui est
Romy Schneider.
Donc, pour moi, c'est
et
elle.
Sa mère, parce que la mère dans le film est sa vraie mère aussi dans la vie, Magda Schneider.
Je savais pas. Fun fact sur le film, drette
oui.
de même en commençant.
Oui. T'as jamais vu de photo de Sissi?
Mais on dirait que je...
La vraie?
Je suis pas sûre, je pense. Ah, c'est gênant de dire ça, hein?
Oh, OK, ben écoute, tantôt, tu fouilleras. Ben, c'est pas nécessairement tout le monde, effectivement, qui la reconnaîtrait, parce que Romy Schneider a figé dans l'imaginaire une Sissi qui n'est pas nécessairement si proche de la réalité que ça. Les films ont une tendance. Un, ils ont joué beaucoup sur la chronologie. Ils en ont fait 3 parce qu'après, Romy Schneider a dit « Moi, je ne fais plus ça. » Elle s'est arrêtée. Donc, ça s'est arrêté aussi pour ces films qui ont été produits quand même dans les années 50. Ça fait longtemps, mais ils étaient en couleur. Puis encore aujourd'hui, même si ça a été nettoyé, moi, je les avais achetés en DVD. Puis je veux dire, ça reste quand même, du point de vue cinématographique, quiconque aime les châteaux, aime les grosses robes, aime les chicanes de cour, c'est sûr que les films de Sissi restent encore très, très intéressants aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est sûr que pour parler de son histoire, ils ont condensé puis ils ont joué un peu sur la chronologie, entre autres, de ses enfants. Il y a quand même plusieurs petites choses qui fonctionnent moins bien. Puis il y a des aspects peut-être plus controversés d'elle qui ont été peut-être volontairement esquivés ou à peine esquissés dans les films. Ouais.
Ben oui, parce qu'elle était anorexique, si je me trompe pas. Elle avait des troubles boulimiques.
Anorexique, dépressive. Plus anorexie que boulimie. Elle s'empifferait pas de ce qu'on en sait. Sissi, c'était vraiment plus un contrôle extrême de sa nourriture. Là, dans le film, il y a une fois où, je pense que c'est dans le dernier, elle revoit François-Joseph dans une auberge. Là, ils sont en chemin. Puis elle demande juste un verre de lait. Tu sais, c'est une façon d'évoquer le fait qu'elle mange très peu. Mais c'est vrai qu'elle se nourrissait souvent presque exclusivement de lait, un peu de thé. Elle pouvait aimer une saucisse à l'occasion, mais plus elle s'est mise à vieillir, plus les drames de sa vie se sont ajoutés. Plus la dépression a été omniprésente et plus cet aspect-là d'elle a été déterminant. Donc, elle avait un tour de taille minuscule. Qu'elle a essayé de conserver jusqu'à sa mort à l'âge de 61 ans. Donc, malgré la ménopause et tout le reste, ça demandait pas mal de travail. C'était une femme qui était très active aussi depuis l'enfance. Donc, partout où elle allait, elle avait des salles de gymnastique. Elle amenait même son matériel de gymnastique là, à bord de ses trains et partout pour toujours s'exercer, pour rester le plus mince possible et dépenser peut-être un petit peu son stress.
On dirait que c'est pas dans l'air du temps de cette époque de s'entraîner,
de son époque,
d'être
non.
en forme, de prendre soin de soi et tout. C'est vraiment, vraiment pas. J'étais comme, ben là, je veux pas dire avant-gardiste parce que.
Oui!
Un peu, ouais.
On peut dire ça, oui, 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 parce qu'elle détonnait avec le côté très conservateur des cours européennes de l'époque, là. Je veux dire, elle a connu la reine Victoria, il ne peut pas être plus différent que Sissi et Victoria, même si toutes les deux ont connu des deuils, puis bon, vont porter le noir. C'est la seule ressemblance que ces deux femmes-là vont avoir. Là où Victoria, elle va être terriblement conservatrice, puis elle va évoluer dans sa vie, là où Sissi, elle, va constamment chercher à être libre. Donc oui, elle est avant-gardiste dans cette volonté de ne pas nécessairement vivre tout le protocole de la cour et de s'en échapper le plus souvent possible, puis d'effectivement... ça se traîne à des exercices de gymnastique assez difficiles. Puis des fois, ben, c'est ça, les précepteurs qui étaient embauchés pour l'aider à apprendre des langues, à connaître l'histoire des différents territoires de son empire, parce qu'elle était impératrice. On laissait des témoignages qui disaient, ben, écoutez, on rentre dans ses appartements, puis elle se prend près des barres, puis elle lève ses jambes jusque vers sa tête. Je sais pas si tu as déjà fait ça, là, mais ça, c'est les exercices de J-Lo, là, pour les abdos de fer de Jennifer Lopez, là.
Ouais, quand j'avais 4 mois, je pense que j'étais assez flexible pour faire ça, mais pas
depuis. Moi, j'ai fait ça en natation au cégep, puis le jour où j'ai arrêté de faire ça, je ne m'en plus d'être capable. Je suis plus capable de faire ça, là, je veux dire, mes jambes se rendent plus, mais tu sais, ça demande un tronc et des abdominaux de fer, là, tu sais, pour faire quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, elle était très, 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 très agile. Puis, je veux dire, c'était une maniaque des grands espaces et surtout de sport équestre. Donc, oui, pour ces raisons-là, elle détenait beaucoup, beaucoup, beaucoup du reste de... pas juste de la cour de Vienne, mais des cours européennes en général.
Mais là, on est déjà en train de parler quasiment de sa mort et de ce qu'elle a légué.
On trace un portrait!
Mais revenons au tout début. Elle est née quand? Elle vient d'où? C'est... Comment ça a commencé, Sissi?
Comment ça a commencé, Sissi? Ben, ça a commencé en Bavière, parce que ses parents, comme je te disais, ben, c'est en fait... C'est
en Allemagne.
Duc Maximilien de Bavière. Oui, mais on est en Allemagne, c'est, oui. Puis, c'est sûr qu'elle est née dans... Eux autres, ils ont eu beaucoup d'enfants. C'était une famille un petit peu excentrique. En fait, Maximilien de Bavière, c'est un duc qui ne voulait pas justement s'astreindre à la vie de cour. Donc, volontairement, il vivait dans une espèce de domaine dans les montagnes. À Possenhofen. Puis, je veux dire, lui, il aimait la chasse. Il aimait justement faire du cheval toute la journée. Puis ses enfants, avec sa femme, ils ont tous été élevés dans cette espèce de, on va dire, de liberté qui ne correspondait pas à leur statut social. Donc, il était un excentrique, Maximilien de Bavière. Donc, il est intéressant pour ça parce qu'il va beaucoup marquer la personnalité de sa fille. Un homme enjoué, mais un homme qui, quand même, il se faisait interpeller par les empereurs ou qui avait des fonctions, des fois, si ça y tentait pas, il y allait pas. Il y allait pas mal comme le vent. Vas-y, comme le vent te pousse. Ça, c'était un petit peu, je crois, la définition qui accompagnait Maximilien de Bavière. Donc, Sissi, qui fait partie d'une famille de 10 enfants. Donc, c'est énorme, tu sais. Pour une famille, je dirais, avec un statut de duc. Donc, on est dans un duché. 10 enfants, c'était pas commun pour l'époque. Ça donne une fratrie très vivante. Sissi est habituée de s'occuper de ses frères et sœurs, mais elle est habituée qu'elle peut prendre un cheval puis galoper comme elle le veut. Elle l'adorait d'ailleurs, déjà jeune.
Est-ce qu'elle est la plus vieille?
Non, elle a une sœur qui est Hélène, qui est avant elle, qui était rarement appelée comme ça. Dans les films, d'ailleurs, elle l'appelle toujours Hélène, mais dans les archives qu'on a, il la surnommait toujours Néné.
OK.
Donc, si on lit des lettres de Sissi puis qu'on voit Néné, c'est sa sœur Hélène, parce qu'elle ne l'appelle pas Hélène. Elles l'ont à peu près jamais appelée comme ça. Comme Élisabeth ne s'appelle pas Élisabeth, c'est Sissi. Donc, c'est son surnom. Alors, ils ont beaucoup des surnoms comme ça, à 2 syllabes pour plusieurs des enfants. C'est plus rapide, c'est plus facile, c'est plus affectueux aussi que ces espèces de titres lourds à porter. Donc, on voit une vie menée sans vraiment le poids des conventions qui auraient pu tomber sur les épaules de ces aînés-là. Mais l'aînée, Hélène, avait ce tempérament plus docile, élégant. Elle savait qu'étant l'aînée, c'est elle qui allait peut-être être promise à un mariage de plus haut niveau aussi, puis qu'elle devait correspondre à un certain standard des cours européennes. Donc, elle a peut-être eu plus l'éducation de la dame raffinée que Sissi, qui est la fille sauvage qui accompagne son père, comme je te disais, à la chasse, à cheval. Puis elle et son père trippaient sur le cirque. Elle avait une passion. C'était les jeux du cirque, les trapèzes, s'envoler dans les airs. des voltiges. Ils adoraient ça. Ils adoraient voir ça. Sissi va toujours vouloir essayer ça, mais elle aimait aussi pas tant les compétitions équestres dans son cas. C'est pas la course qui l'intéressait avec les chevaux, mais c'est plus qu'est-ce que tu es capable de faire avec un cheval. Donc, sauter par-dessus des haies. Est-ce que tu es capable de lui faire faire des danses de côté? Tu sais, elle aurait trippé sur Cavalia, mettons. Tu sais, ça aurait été vraiment son univers, là.
Est-ce que, attends, j'ai une question équestre, quelque chose que j'ai jamais pensé dire de toute ma vie, avoir une question équestre.
Oui.
Mais, tu sais, comme les chevaux qu'on voit aux Jeux olympiques, là, genre sauter par-dessus les barrières puis les trucs comme ça, est-ce que ça existait dans le temps de Sissi?
Ah, elle faisait ça.
Oui, elle faisait ça?
Ben oui. Ben oui, elle faisait ça. Elle sautait par-dessus des roches en forêt. Elle avait pas nécessairement besoin d'une vraie haie pour le faire. Mais elle aimait donc le côté très sportif, en fait, du monde équestre et non pas la petite randonnée assise de biais. Toc, 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 toc. Elle était capable de monter en lady, mais c'était une cavalière, là. Mais une cavalière de grande expérience. Puis ça, elle n'a jamais voulu lâcher ça. Mais éventuellement, des fois, on va vouloir la calmer là-dessus parce que pour une impératrice, ça peut être dangereux de tomber. T'sais, là, à un moment donné, on va devenir très, très... on va devenir un petit peu nerveux à la voir s'amuser comme ça avec les chevaux sans aucune crainte. Là, je veux dire, elle aurait volontairement, elle aurait essayé d'être debout sur la selle. Là. Elle l'aurait fait.
Wow.
Si elle n'avait pas été impératrice d'Autriche, à un moment donné, elle aurait été dans des cirques, on l'aurait vue debout sur un cheval à faire des pirouettes. C'est ça qu'elle aurait voulu, en fait, dans sa vie et que son père aimait aussi.
Cavalia, c'est exactement ça.
Voilà. Alors, on est dans une enfance aussi en pleine nature, en forêt, très loin donc de tout ce qui s'appelle un protocole de cour. Alors, au moment où nous enregistrons, d'ailleurs, la reine Élisabeth est décédée. On voit un peu les protocoles du côté de l'Angleterre. Élisabeth n'a pas ces connaissances-là. Et ça va faire en sorte que quand le destin va la frapper, parce que c'est un peu ça, et qu'elle va se retrouver un peu contre son gré, d'une certaine façon, impératrice d'Autriche, ben, inévitablement, c'est une histoire d'horreur qui s'annonce. Ce mariage-là...
Mais parce qu'elle n'était pas supposée être impératrice. Elle n'était pas destinée au trône. Comment elle s'est ramassée impératrice d'Autriche?
Ben ça, le film, honnêtement, était assez juste là-dessus. On pensait bien que Hélène, l'aînée, irait bien avec le nouvel empereur d'Autriche-Hongrie, ben, ce qui va devenir l'Autriche-Hongrie, qui est François-Joseph. Il a 23 ans. Elle a à peine, je pense, 2 ans de moins que lui, quelque chose comme ça. Hélène, la sœur de Sissi. Donc, on pensait que ça ferait... Elle avait le tempérament aussi beaucoup plus doux, docile, comme je te disais, de ce qu'on attendait peut-être d'une impératrice à la cour d'Autriche. Parce que la cour d'Autriche, ce sont les Habsbourg, ce sont les descendants là, des restants du Saint-Empire romain germanique qui descendent en fait des dynasties de Charles Quint, ton préféré. Dans cette lignée-là.
Charles Quint,
voilà! c'est une cour qui est quand même très sévère. Et il faut dire que François-Joseph, son père était décédé, il était très jeune, puis sa mère, l'archiduchesse Sophie, s'est beaucoup battue pour qu'il soit empereur. Donc, c'est une femme avec un tempérament acariâtre. Et d'ailleurs, dans le film, elle a tellement l'air gentille et douce.
Mal commode.
Ben non! Dans le film, je la trouve tellement sweet si on compare à ce qu'elle a vraiment été dans la vie. Et vous irez voir des photos de l'archiduchesse Sophie, vous allez faire « Mon Dieu, pauvre Sissi! » juste à la voir.
C'est pas le genre de belle-mère que t'as le goût d'avoir.
Non. Et dans le film, on lui a enlevé les coiffes horribles de vieille veuve qu'elle portait et tout ça. Tu peux aller voir des photos de l'archiduchesse Sophie puis ça comme faire « Là, là, ça s'annonce pas très, très bien, là. » Et donc, c'est une femme qui s'est beaucoup battue et qui a le tempérament qui vient avec. Il n'y a rien qui va déstabiliser son fils sur le trône. Ça, là, c'est quand même la base. Alors, c'est pour ça qu'Hélène, avec ce tempérament plus doux, plus docile, plus élégant, était prédestinée. En fait, on pensait bien que ça allait fonctionner et elle était supposée se rendre avec sa mère du côté de la cour d'Autriche pour rencontrer François-Joseph. Et là, à la dernière minute, la jeune Sissi a 15 ans. Elle vient de vivre sa première peine d'amour, apparemment, puis elle est déjà sujette à la dépression, donc ça va pas bien. Sa première peine d'amour est un drame très, très lourd à porter. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on se dit, ben elle va accompagner sa sœur et sa mère voir François-Joseph. Ça va lui changer les idées de voyager, de se déplacer. Et là, on a déjà un pattern qui est en train de se dessiner alors qu'elle a 15 ans, là. qui va être un peu la...
T'as de la peine, tu bouges. T'as de la peine, tu changes voilà. de place. Et là
beaucoup. Là. Alors, c'est parti. C'est un peu comme ça que François-Joseph, qui revoit Sissi, est sous le charme. Elle a même pas 16 ans là, quand il la revoit. Il l'avait vue, elle était une enfant. Et là, lui, il est impressionné parce que, contrairement à Hélène, qui joue le rôle très réservé, là, tu sais, qui a la posture et tout, là, qui joue ce qu'elle devrait peut-être être, une future impératrice d'Autriche, ben elle a l'air très effacée. Et lui, il est fasciné par la vivacité. Si, c'est un esprit libre. Là, je dis, elle ne s'attend pas à être impératrice. Elle n'a pas à avoir de retenue. Elle a 15 ans, come on. Il faut lui donner une chance. Peu importe les époques, avoir 15 ans, c'est avoir 15 ans. Donc, cheveux châtains dans le vent. Dans les films, on la montre plus les cheveux plus foncés qu'est-ce qu'elle les avait peut-être à 15 ans. Par contre, parce qu'elle est vraiment décrite comme ayant les cheveux châtains avec des reflets là, quand le soleil frappait là-dessus. Elle a toute une chevelure, si on le sait, qu'elle va entretenir toute sa vie d'ailleurs. Et François-Joseph est juste amoureux. Et il dit, ben je ne veux pas épouser Néné. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. Moi, ça va être Sissi. Et donc, c'est sûr que dans le film, là, on va jouer la carte, là, tu sais, de comment il va faire ça au bal. Bon, là, on dramatise beaucoup parce que dans les faits, il y a eu beaucoup de négociations, il y a eu beaucoup de débats par rapport à tout ça. La duchesse ne veut rien savoir qu'il épouse Sissi. Il y a beaucoup de militaires et de nobles aussi, de l'aristocratie autrichienne qui sont comme, mon Dieu, comment va-t-elle réussir à appuyer l'empereur dans ses fonctions? Parce que en tant qu'impératrice, elle va devoir faire de la politique quand même. Elle est là pour aider l'empereur, elle est là pour recevoir des diplomates, recevoir des femmes de représentants et s'assurer qu'il n'y ait pas de faille dans un empire qui est fragile quand même. Entre autres, en ce qui concerne la Hongrie, qui se bat pour avoir sa liberté. La Hongrie fait partie de l'Empire, mais il y a plusieurs révoltes par rapport à ça. La Hongrie aimerait peut-être devenir un royaume indépendant. Là, on tombe dans de la grosse politique, d'ailleurs, très complexe de cette région du monde. Et donc, le rôle qui va tomber sur les épaules de la future impératrice n'est pas juste d'être une potiche à côté de l'empereur. Là. C'est pas ça l'idée. Et François-Joseph est intraitable.
Et puis à 15 ans, il faut que tu ailles tout ça ses épaules. Oublie ça.
Mais que ça, elle va l'épouser à 16 ans, mais les négociations se font et François-Joseph est intraitable. Si c'est pas Sissi, il n'y a pas de mariage. Et l'archiduchesse, c'est un des points sur lesquels elle a perdu. Il a fallu qu'elle accepte. Et Sissi, de ce qu'on en sait, parce qu'elle a laissé beaucoup d'archives, ce qu'on ne sait pas, souvent parce qu'on connaît que le film, et c'est ça le problème. Sissi écrit beaucoup. Elle aime la poésie. Elle va d'ailleurs s'entendre avec un de ses cousins qui est un petit peu viré sur le top, mais qui aime comme elle la poésie et tout ça. Elle écrit beaucoup, elle écrit très bien d'ailleurs, mais elle parle de la mélancolie dès ses premiers textes. Là. Je veux dire, s'il y a un mot, en fait, qu'elle va utiliser beaucoup, c'est cette espèce de mélancolie qu'elle va traîner après avoir quitté le nid familial et cette liberté qui est caractéristique de sa jeunesse. Et elle n'a pas dit « Oui, absolument, je suis amoureuse de François-Joseph ». Dans le film, on vous donne cette impression qu'elle-même, elle est amoureuse de François-Joseph et tout. Ça ne semble pas être le cas. On lui impose un mariage et elle comprend que c'est important. Et ben, quand tu as 15 ans et que tout le monde est autour de toi et prend des décisions à ta place, tu as peu de mots à dire finalement sur ton avenir. Et donc, Sissi est condamnée. Cet amour un peu irréfléchi de François-Joseph va la condamner à une vie de misère, même si elle va vivre dans le luxe. Elle va vivre une vie de misère émotive.
Et sa relation avec sa sœur, est-ce que sa sœur est jalouse? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça fait
oui, au début, ça va pas très, très bien. De ce qu'on sait, au début, ça crée des frictions, c'est sûr, mais elles vont se réconcilier, elles vont s'écrire beaucoup, vont s'épauler beaucoup aussi au cours de leur vie. Je pense que dans ce qu'on en comprend un peu dans les archives, c'est peut-être pas tant à Sissi qu'elle en veut qu'à François-Joseph, en fait. D'avoir oublié le devoir, peut-être. Puis elle l'aimait, là. François-Joseph, elle aurait vraiment, essayé d'être une bonne épouse. Mais de voir qu'il a pas pensé au devoir cette fois-ci, puis qu'il a vraiment juste suivi son cœur sans penser aux conséquences pour lui, pour elle. À l'époque. Mais il faut dire qu'il a 23 ans, tu sais, je veux dire, t'es pas encore... Oui, à l'époque, t'es plus un homme qu'aujourd'hui à 23 ans, mais 23 ans, t'as pas l'expérience de vie peut-être, surtout émotive, pour comprendre ce que tu le lot que tu vas décharger sur l'autre personne. Parce que, ben, tu sais, c'est pas des situations où on divorce, là.
Ben non, puis tout ça pour un voyage. Tu sais, il y a tellement d'éléments que si allait bien, si elle avait dit non, j'y vais pas, si elle s'était foulée une cheville, si... Il y a tellement...
Si, exactement.
C'est que de la chance... Ben, de la chance ou de la malchance, là, c'est selon, mais c'est vraiment une conjoncture de petits moments qui font que, bam, tu deviens impératrice d'Autriche, là. Et après leur mariage...
Oui, et t'es jeune.
Après leur mariage, est-ce qu'elle est bien acceptée? Est-ce que les gens l'aiment? Comment ça se passe?
Allez, il y a une différence. Il y a une très grosse différence entre le peuple et ou les peuples, parce que c'est un empire, et la cour.
Hmm.
Et ça va toujours distinguer un petit peu les visions qu'on a de Sissi. Parce qu'elle reste un personnage controversé dans l'histoire autrichienne. De par son attitude et tout ça du point de vue de l'élite. Mais la population, je veux dire, elle est magnifique, Sissi, quand elle est jeune. Et quand elle va être, en fait, une jeune femme, dans la vingtaine, elle était réputée, tous ceux qui la rencontraient disaient que c'était la plus belle femme d'Europe. Et c'est pour cette époque-là qu'on a des photos d'elle où elle ne se cache pas derrière un voilage ou un éventail, parce qu'elle n'aime, à un moment donné, elle ne voudra plus se faire photographier à part de loin. Elle va être très exigeante là-dessus. Ça va avec un peu la maladie qui est l'anorexie, où tu te considères pas jolie. La vieillesse va la traumatiser énormément. Mais dans sa vingtaine, Sissi, c'est une femme absolument rayonnante. Là, je veux dire, avec cette chevelure qui descend, il existe un portrait d'elle où elle a accepté qu'on la peigne, les cheveux complètement détressés qui lui arrivent à peu près en bas du genou, là, vers le début du mollet. Là. C'est tellement impressionnant. Elle est en robe de chambre. C'est un de ses plus beaux portraits, de mon point de vue. Il est très intime. On a cette espèce de grosse chevelure foncée qui descend en cascade. Moi qui étais capable de supporter même des cheveux sur ma nuque, quand je vois ça, je suis comme... le poids de ça, parce que c'est une chevelure qui est très lourde. C'est une chevelure qui est très lourde. Ça prenait 2-3 heures juste à brosser et la coiffer le matin. Là. Les cheveux demandaient pas mal de son rituel de beauté. Mais donc, c'est une belle femme. Mais qui ne connaît rien à la vie de cour. Et quand elle arrive, elle va arriver dans les palais de la cour d'Autriche. Il y en a plus qu'un. Mais celle qui gère, c'est l'archiduchesse, parce que le François-Joseph, il est terriblement occupé. Il est empereur. Et empereur à une époque quand même assez compliquée. Quand on arrive comme ça, dans la deuxième moitié du 19e siècle... L'Empire d'Autriche a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail diplomatique à faire pour maintenir son empire, éviter les guerres, éviter les conflits, s'assurer que l'économie aille bien. François-Joseph travaille très, très fort. Et donc, il a une jeune épouse, très jeune, qui est abandonnée comme ça dans un palais avec des dames de compagnie âgées, conservatrices, qui sont là pour la casser. Et donc, son esprit de révolte va naître... t'as 16 ans. Bonjour l'ado encore, là, je veux dire. Elle va agir de cette façon-là.
Surtout si elle a été élevée dans une totale liberté, puis qu'à 16 ans, on dit « arrête tout », alors que c'est précisément le moment où t'as besoin de doublement de liberté, le clash est évident. Là.
Ah, c'est énorme! Et l'archiduchesse, c'est son essai de la former au cérémonial de cour. Elle résiste un petit peu. Elle aime pas la nourriture non plus de la cour d'Autriche. Elle s'ennuie, en fait, vraiment, là, tu sais, de la choucroute puis de la bouffe allemande. Et quand on pense bouffe allemande, on pense pas bouffe légère. Je sais pas ce que t'as en tête, toi, si je te dis Allemagne et Bavière, mais tu devrais voir un gros boc de bière, de la saucisse très épaisse puis de la choucroute arriver sur ton
assiette. C'est exactement ce que j'avais en tête.
Il y a ça qui est difficile. Et en plus, elle est jeune. Et l'archiduchesse, qui est très conservatrice, trouve qu'elle choisit des coloris de vêtements quand on fait ses robes qui sont trop colorées. On la trouve trop vive. On trouve qu'elle ne s'applique pas assez à ses études parce qu'il faut qu'elle soit éduquée. Elle le fait, mais il faut qu'elle ait un intérêt. Puis il y a des sujets qui l'intéressent moins que d'autres. Donc, ses sujets préférés, c'est l'histoire. Hein. Ça la motive. Donc, les précepteurs qui vont se succéder, en fait, dans ses appartements, quand on est dans les langues et quand on est dans l'histoire, elle aime ça, mais c'est pas toutes les langues qu'elle aime. Mais elle va avoir une préférence assez rapidement pour le hongrois, qui, bon, au niveau des sonorités, il y a quelque chose qu'elle aime là-dedans. Elle trouve qu'il y a un côté romantique à cette langue-là. Elle en parle dans ses lettres, dans ses journaux intimes, parce qu'on a de ses journaux intimes. Mais
elle en parle allemand?
Oui, elle parle allemand. Mais à l'époque, dans une cour européenne, où tu parles aussi français, tu sais, t'es supposé parler plusieurs langues. Donc, Sissi devait essayer d'apprendre plusieurs langues. Et voilà, ça donne ça donne une éducation à un âge où des fois tu veux moins apprendre peut-être, qui fait en sorte qu'il y a un clash entre elle et l'archiduchesse, c'est assez évident. Et moins d'un an, je pense, après son mariage, elle donne naissance à sa première fille. Et l'archiduchesse se dit, ben voyons donc, comme si une enfant pouvait élever un enfant. Donc très vite, on lui enlève sa petite fille, on lui enlève Sophie. Elle est dévastée. Et là, François-Joseph commence à comprendre que son épouse perd de sa superbe parce que là, il y a de quoi qui ne va pas. Et elle va donner naissance à une deuxième fille qui est Gisèle. Et c'est là où dans les films, on joue là, sur la chronologie. Oh oui, on joue très vite là-dessus. Mais ça, c'est le premier grand drame de sa vie. Un, qu'on lui a enlevé l'éducation de sa première fille. Donc la deuxième, elle s'est battue. Elle dit, il n'y a pas question. À la deuxième, là, je l'élève dans mes appartements. Elle a tenu son bout. Et François-Joseph l'a appuyé aussi parce qu'il a vu l'impact.
Dépérir,
en fait, d'enlever... Là, ils vont faire un voyage. Ils vont commencer à faire des voyages diplomatiques. Puis elle veut amener ses deux filles avec elle. L'archiduchesse ne veut pas parce qu'elle dit, voyons donc, amener des enfants en voyage. Mais Sissi ne veut pas que l'archiduchesse les corrompe. Tu sais, elle ne veut pas ça pour eux. Mais malheureusement pour elle, sa première fille, Sophie, va mourir de dysenterie en voyage. Donc, les conditions de salubrité et autres ne sont pas aussi bien tenues qu'à la cour d'Autriche. Donc, elle perd en fait sa première fille. Et là, déjà, whoop, ça y est, Sissi décline. Et quand elle revient, elle se sent tellement coupable qu'elle donne Gisèle à l'archiduchesse en lui disant « OK, élevez-la, je suis pas apte à élever des enfants. » Alors que c'est pas sa faute, mais... Oui, ton cœur de mère, là.
Ah ben non, mais tout ça, tu sais, la culpabilité maternelle, le fait de perdre un enfant, si déjà, en plus, tu te bats avec une dépression ou avec des tendances dépressives, tout ça mis ensemble, puis il n'y a pas d'antidépresseur à l'époque, là, il n'y a pas de psychologue, il n'y a rien, tu peux juste ravaler puis vivre. Tu sais, pour moi, c'est tellement inconcevable.
En fait, on appelle ça cliniquement, à l'époque de Sissi, à la fin du 19e siècle, on parle de mélancolie. Ça, c'est un terme, si vous cherchez l'histoire de la dépression, à utiliser d'ailleurs dans vos mots-clés, dans les moteurs de recherche, la mélancolie. Et Sissi, c'est un terme qu'elle utilise beaucoup elle-même. Elle sent cette tristesse-là depuis qu'elle est enfant, en fait. Elle a toujours eu un peu cette tendance à aimer la beauté, mais en même temps à souffrir pour cette beauté de la nature. Souffrir est un mot qu'elle utilise beaucoup dans ses journaux aussi. Elle parle beaucoup de ses sentiments où elle a toujours l'impression que son cœur est en cage. C'est comme une image qu'elle donne, comme si elle n'avait jamais le droit d'être vraiment elle-même. Et ça, à un moment donné, ça finit par avoir des conséquences sur sa santé globale. Donc, Sissi, après la mort de Sophie, le retour à la cour de Vienne, après avoir voyagé un peu, dépérit très rapidement, en fait, on pense qu'elle va mourir. Elle a plusieurs symptômes un peu étonnants, mais elle est surtout terriblement fatiguée. Elle n'a plus d'énergie. Elle qui était vive, qui partait à cheval. Même si on lui disait de ne pas le faire, elle faisait pareil. Puis bon, qu'il y avait un côté résistant. Même l'archiduchesse se dit « Oh, OK, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Et on est très inquiet, en fait, que l'impératrice meure. Et c'est comme ça que les médecins disent « Il faut la sortir de l'air étouffant de Vienne. » Le remède à la fin du 19e siècle, qui a fait qu'on a développé la promenade de Nice, ce qu'on appelle la promenade des Anglais, qu'on a développé les bords de mer en Angleterre. Si vous avez vu le film Ammonite avec Kate Winslet, là, qui fait Mary Annings, la paléontologue et tout ça, c'est qu'à un moment donné, on réalise que dans l'ère industrielle aussi, dans les villes avec les usines, on recommande de plus en plus l'air frais pour se soigner. Et on a réalisé que pour les gens mélancoliques, le bord de mer, les vagues, l'air salin avait quelque chose quand même de vivifiant. Et c'est comme ça que Sissi va commencer à voyager en Méditerranée. Elle va faire plusieurs voyages en Méditerranée et elle va commencer lentement, mais sûrement à revivre parce qu'elle est libérée du protocole de cour. Ça y est, Elle peut faire ce qu'elle veut et elle peut s'éduquer à sa façon parce que c'est une femme éduquée, mais une femme qui a ses propres intérêts. Et ce qui l'intéresse, c'est l'histoire. C'est un peu dans ce contexte-là qu'éventuellement, elle va en venir à acheter ce qu'on appelle la villa aujourd'hui, qu'on appelle l'Aquileion à Corfou. Corfou va être un cœur de Sicile, du côté de la Grèce, l'île de Corfou. Elle va y avoir une villa qui se visite encore aujourd'hui. Ça, c'est un de mes rêves. Je ne l'ai pas fait. Puis, j'étais pas très loin. J'étais juste en face en Italie la dernière fois. J'étais dans la mer Adriatique où j'étais comme... C'est de l'autre bord!
Je pourrais y aller à la nage!
Ben, je dis ça à mon chum, il dit que je te vois partir nager en pleine mer de même, toi, pour aller de l'autre côté. Mais donc, Corfou, qui est beaucoup associé à Sicile parce que elle va s'immerger dans l'histoire de la Grèce antique. Elle est fascinée par la mythologie, par les drames des dieux et des déesses de la Grèce
elle
antique.
Elle doit se reconnaître là-dedans, quelque part. Elle doit trouver que ça résonne. Oui.
Lisez Antigone, puis je veux dire, c'est tellement... bon, voilà, c'est tragique. Elle aime la tragédie. Et c'est comme ça qu'elle va investir beaucoup pour rénover cette espèce de villa qui devient l'Aquileion, qui est dédiée, en fait, au monde de la Grèce antique et aux divinités, entre autres Achille. Ça le dit, Aquileion, on fait un lien avec la guerre de Troie, mais elle est beaucoup dédiée au dieu Apollon aussi, au soleil. Il y a des jardins magnifiques, c'est Corfou, il y a le climat qui va avec. Sicile est libre. Sicile peut faire ce qu'elle veut. Elle rencontre des gens, tout va bien, mais à un moment donné, la réalité, c'est qu'il faut rentrer.
Faut qu'elle revienne.
Oui, mais là, quand elle revient, elle s'assoit avec François-Joseph. Elle sait qu'elle n'est pas la meilleure des épouses, là. Elle sait qu'elle ne lui donne pas l'amour qu'il aurait peut-être voulu aussi. Ils vont s'entendre sur le fait que Sicile va, oui, faire son rôle d'impératrice, mais on va limiter, en fait, les obligations de la cour et le protocole à son minimum. Et c'est ce qui fait qu'elle va accepter de rester à Vienne. François-Joseph va même faire construire un espèce de petit domaine aussi pour que Sicile et ses autres enfants qui vont suivre aient une vie de famille un petit peu plus normale.
Hey, ça me fait penser à Marie-Antoinette avec le petit Trianon.
Oui.
Tu sais, où elle pouvait vraiment s'isoler avec ses proches puis vivre un semblant de vie normale, ordinaire.
Comme Élisabeth II et Balmoral en Écosse. C'est le même principe. Et ben voilà, il y a un nouvel enfant qui naît.
C'est ça que j'allais dire.
Et c'est la fille... Mm-hmm. C'est Marie-Valérie qui est la fille préférée de Sicile, de ce qu'on en comprend, parce qu'elle va l'élever
Marie
elle-même.
Marie-Valérie, c'est pas un nom qu'on entend souvent, hein? Marie-Valérie.
Non! Mais c'est la fille qu'elle a pu élever elle-même. Gisèle, malheureusement, c'est un peu triste, mais c'est une fille qui a été élevée par l'archiduchesse. Donc, Sicile n'a pas la même relation mère-fille avec Gisèle. Qu'est-ce qu'elle va avoir avec Marie-Valérie? Où elle va elle lui dit, je la garde pour moi, celle-là. Tu sais, je vais l'élever, cette fille-là. Et elle veut lui donner l'éducation plus libre. Elle ne veut pas que sa fille soit élevée juste dans « je dois faire ci, je dois faire ça, c'est mon devoir ». Sicile, ça la rend folle. Et c'est la même époque où, dans les palais, ben, elle fait construire des salles de gymnastique où là, elle va s'entraîner puis elle va commencer à travailler fort parce que après un troisième accouchement aussi, bon, il y a des changements sur son corps. Sicile, dans la trentaine, commence à vieillir aussi. Donc là, les angoisses du vieillissement vont commencer à arriver parce que là, elle est encore, juste au moment où elle est encore très jolie, elle est vue comme une belle femme. Le deuil étant passé, la première grosse crise de mélancolie étant passée, tu sais, il y a une période qui va quand même relativement bien. Et c'est en fait la période pendant laquelle on va consolider les liens avec la Hongrie. Et Sicile, de par son amour de la langue, qu'elle parle bien, de par son amour de la culture de la Hongrie, réussit à créer le pont diplomatique qui manquait à François-Joseph. Et c'est pour ça que la Hongrie va accepter là, de signer les documents en disant « oui, on reste dans l'Empire d'Autriche, mais on veut que Sicile soit reine de Hongrie ». Alors, Sicile, d'ailleurs, sa robe de couronnement, elle est magnifique, là. Mais c'est Sicile qui a gagné ça. On va l'appeler ça la reine des cœurs. Elle va gagner le cœur des Hongrois. Et donc, au niveau du peuple, Sicile, c'est une femme que quand les gens la voyaient et tout ça, ils la trouvaient donc belle, mais surtout vive, les yeux très clairs, curieuse, active, ce qu'on voyait pas nécessairement beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle devient, dans le fond, une très grande amie de celui qui va négocier avec François-Joseph là, la finalisation là, on va dire la consolidation des liens de la Hongrie, de la Autriche, de l'Autriche, qui est le comte Andrassy qu'on montre dans le film, d'ailleurs, mais qui va vraiment être un ami très, très proche de Sicile. Et quand elle va donc avoir un palais en Hongrie, elle va y aller le plus souvent possible. En fait, Sissi va arriver dans une phase de sa vie où elle va même avoir un wagon de train.
OK.
Aménagé pour elle. Victoria en avait un. Parce que là, on est à l'époque où les chemins de fer existent partout en Europe. La grosse phase industrielle a commencé, mais les chemins de fer sont vraiment développés. Et Sissi va avoir un wagon de train aménagé qui fait que quand elle veut aller quelque part, elle peut juste le faire accrocher au train qui l'intéresse, puis elle suit le train. Mais elle a son propre wagon avec...
À part,
avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. mais c'est une époque où elle a quand même des liens, des contacts diplomatiques et peut-être amicaux avec, la reine Victoria, l'impératrice Eugénie aussi du côté de la France, qui est l'épouse de Napoléon III. Donc, elle réside aussi des fois, elle est invitée à aller résider dans d'autres palais. Donc, elle bouge, mais là, avec François-Joseph, ça va et ça va donner tardivement naissance à l'héritier manquant, ça prend un gars.
C'est ça que j'allais te demander, combien d'autres enfants ils ont eu? Fait qu'il y a eu... la première.
Quatre enfants.
Ouais, c'est ça, quatre enfants. On a eu Sophie, Gisèle, Marie-Valérie et finalement Rodolphe.
Oui, l'héritier attendu, Sissi a accompli son devoir. Elle pourrait être plus libre ensuite. Elle a donné un fils à François-Joseph. Et ce qui va se passer, par contre, c'est que Sissi est dans sa phase de liberté. Là. Elle veut vraiment voyager, elle veut continuer à aller à Corfou le plus souvent possible, à Ithaque, les bords de la Méditerranée, et François-Joseph, à un moment donné, s'ennuie. Hein? C'est ça qui va arriver. Et Sissi, pour ne pas être trop reconnue, parce que les gens sont fascinés par elle. Elle est un peu mystérieuse, elle n'aime pas être trop vue. Sauf dans les sorties officielles et tout ça. Et les gens, elles sont fascinées par cette femme-là. Donc, quand elle voyage et qu'elle loge dans des hôtels parce que ça arrive, elle s'est inventé un nom. Elle fait partie de ces gens un peu comme les célébrités qui ne réservent pas sous son vrai nom.
Oui, j'allais dire, c'est comme une rockstar de l'ancien temps.
Ben un peu, oui. Puis elle était vue comme ça, elle fascinait, Sissi. Donc, elle prenait le nom de comtesse de Hohenhebs ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne, qui faisait en sorte que, aujourd'hui, quand on voit ce nom-là, on se doute que c'est elle qui était quelque part, pour avoir une certaine vie privée, pas trop se faire déranger. Mais à un moment donné, François-Joseph, il est très seul. On s'entend que leur vie sexuelle, l'amour, la n'est pas présent. Sissi n'aime pas François-Joseph. C'est une amie. Elle le voit comme un ami, mais la passion que François-Joseph aurait peut-être aimé avoir, il ne l'a pas. Et cette passion-là va renaître pour lui auprès d'une actrice qui s'appelle Katharina. Il me semble que c'est Schratt ou quelque chose comme ça. Ça se prononce bizarre. Hein? Appelons-la Katharina. Et Sissi va dire, go, couche avec, vas-y, et elles vont être amies. Sissi va passer des soirées, des fois, à discuter avec François-Joseph et cette actrice-là, puis elle lui dit, garde, tu rends François-Joseph heureux, go, t'as ma bénédiction, je ne suis pas capable de faire ça. Alors, parce que le divorce est impossible, mais elle l'aime à sa façon, mais pas cet amour passionné que nous montrent les films. Là-dessus, ils sont vraiment hors de la traque, là. François-Joseph va avoir une relation avec une actrice qui va devenir un peu sa compagne, celle qui va l'aider, qui va coucher avec, pendant que Sissi, elle vit des fois ses phases de mélancolie et tout ça. Mais là, le drame va aussi arriver dans sa vie parce que Rodolphe a ce tempérament un petit peu. Elle s'est arrangée pour qu'il n'y ait pas une éducation trop sévère, mais Rodolphe a peut-être ce tempérament, la mélancolie aussi, où il va vivre, une première peine d'amour, il va avoir une nouvelle amoureuse, on ne sait pas trop les circonstances, mais reste qu'à un moment donné, il est retrouvé mort dans une villa, il a tué en fait sa maîtresse, et il s'est tiré. Donc, il s'est suicidé, Rodolphe. Non, ça, les films de Sissi te montrent pas ça. Ouais.
Ben, c'est un downer sur un moyen temps, là.
Il faut dire aux auditeurs que nous sommes sur Zoom et là, t'as figé dans l'écran et c'est pas la faute de Zoom, c'est genre Gabrielle qui est comme fait, hein? What the fuck?
Mais je savais
qu'est-ce
pas.
Qu'il y a de ce passé-là?
Je savais pas cette information-là, mais voyons donc. Mais quel drame! Ouais. Quel drame à tous les niveaux! Ouais. Quel drame humain! Pour la mère, pour le fils, pour l'amante, pour le peuple aussi, là, qui vient de perdre son héritier.
Oui!
Tout ça mis ensemble.
Oui!
Mais là, qu'est-ce qui se passe un coup que Rodolphe est décédé?
C'est énorme! On est en 1889. Il y a les funérailles, mais là, Sissi s'effondre. Sissi, ça, c'est le drame de sa vie. Et à partir de ce moment-là, là où on a des liens à faire avec la reine Victoria, elle ne porte plus de couleur. Elle va toujours être vue en noir, dans des robes noires. Très serrée, très austère, avec cette taille qui a l'air d'une paille, là. Elle est rendue tellement mince, là. Elle porte des corsets hyper serrés, mais on ne le voit plus son visage. Elle le cache derrière des éventails, des voilages, des voilettes. Mais Sissi ne se montre plus en public, le visage complet, dégagé. Elle se trouve trop vieille pour être vue maintenant. Et le deuil, la mélancolie ont eu un impact à ses yeux trop important sur son visage. On la voit, donc on voit très, très peu son visage à partir.
Ah, oh, c'est tellement triste, là!
Ben oui! Mais c'est même pas fini.
Tu racontes tout ça, puis j'ai comme de la peine pour elle. J'ai de la compassion, puis j'aimerais juste la prendre dans mes bras. Pauvre femme, là.
Oui, pauvre femme. On est souvent... Tu sais, quand on est enfant, quand on voit... Que ce soit les films de Disney... moi, j'aimais bien La Belle au bois dormant, là, avec le changement de robe, avec les fées marraines. Blue! Pink! Pink! Cette espèce d'image qui nous a...
C'est une de mes scènes préférées aussi.
I know you once upon a dream, qui est une valse absolument magnifique. Mais voilà, tu sais, on est un petit peu bercé par ça. Moi, je suis de la génération qui, en même temps, avait des dessins animés japonais très trash, où il y avait beaucoup de drames, tu sais, Rémi sans famille, Démétane et compagnie, là, tu sais, on pleure.
Hé, hey, Démétane, excuse-moi, là, Démétane, voyons donc.
Je pleure tout le temps.
Ça n'a pas rapport, ça se peut pas.
Vous irez voir sur YouTube des extraits de Démétane et vous comprendrez ce que tu sais. La dernière licorne, c'est tellement triste, je veux dire. Oui. C'est un film d'animation japonaise qui m'a tellement fait brailler quand j'étais enfant. Bon, on a eu un peu ce contrepoids, mais reste que on a cette espèce d'image quand on est jeune. Je pense aux petites filles qui présentement trippent sur la Reine des Neiges, des choses comme ça, qu'une princesse, oui, va avoir un petit peu de difficulté, mais tu sais, ça finit bien, puis tu sais, t'as des belles robes, puis la vie, elle est belle. La plupart des femmes, ce sont des mariages forcés. Qui sont dans des circonstances des fois où le mari peut avoir plus qu'une concubine pour avoir des héritiers, donc te trompe régulièrement. Et ça n'est pas garant de bonheur. Sissi est l'archétype fait d'une femme qu'on regarde pour se voir Sissi, parce qu'elle est magnifiée, entre autres, dans un film aussi, où on voit juste les palais, les robes et tout ça, et on ne voit pas ce drame-là se jouer tant que ça. Même si dans le film, on la voit être malade, on la voit commencer à revivre à Corfou. En les années 50, on n'osait pas parler de dépression. On ne jouait pas cette carte-là. Donc, le film esquisse qu'elle est malade, mais on ne joue pas trop cette carte-là. On ne parle pas trop de son anorexie. C'est juste des tout petits morceaux qui nous laissent comprendre qu'il y a un problème, mais c'est vraiment mineur. Donc, ça contribue à ce que tu sois surprise, si tu n'as jamais lu sur Sissi, de voir à quel point, en fait, elle souffrait terriblement. Et elle va donc voyager. Là. On ne la voit plus. Sissi, elle n'est plus en Autriche. Elle n'y remet presque plus les pieds à partir de 1889. Là, ça, c'est terminé. Et le drame final se joue à Genève. Nous sommes le 10 septembre. Sissi vient d'arriver dans un hôtel à Genève. Elle est avec sa dame de compagnie qui l'a accompagnée vraiment pendant longtemps vers la fin. Et elle sort de son hôtel, elle s'en va prendre un bateau et il y a un anarchiste italien qui devait tuer un duc qui finalement n'est pas là, mais lui, il veut vraiment tuer quelqu'un de la monarchie, ce symbole horrible de l'oppression du peuple. Il voit Sissi et avec une aiguille, il fait semblant de la bousculer. Elle est bousculée par quelqu'un alors qu'elle s'en va vers le bateau, mais il l'a poignardée au cœur avec une aiguille. Et pourquoi elle n'est pas morte sur le coup, c'est que son corset était tellement serré que le sang ne peut pas s'écouler, mais quand elle s'effondre sur le bateau, on est comme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et au moment où on desserre le corset, ben là, ouvrir les valves. Mmh. Et Sissi meurt. Oui, Sissi meurt à l'âge de 61 ans, le 10 septembre 1898. Et François-Joseph va être atterré de ça. C'est un assassinat politique. Une des femmes les plus aimées de son époque est une victime choisie au hasard parce que la personne qui était destinée à être assassinée s'est pas présentée à Genève. Et ça, c'est assez terrible. Et ce qu'il y a de triste pour Sissi, c'est qu'elle avait demandé à ce qu'on l'enterre au moins à Corfou. Mais François-Joseph a dit non, elle est impératrice. Donc, elle est dans la crypte avec toute la belle famille impériale à Vienne. Puis là où elle voulait jamais être. C'est là qu'elle a fini.
Y a-tu des fantômes de Sissi? Est-ce que Sissi hante les lieux?
Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler. Je sais que si on veut avoir une idée de ce à quoi elle ressemblait à 61 ans, il y a un masque funéraire qui a été fait. C'était la tradition au 19e siècle, comme il y en a de Napoléon et tout ça. Il existe son masque funéraire, si vous voulez regarder sur Google. Donc, on a une idée de ses traits à 61 ans. Mais reste que quand on prend tout ça en compte et qu'après ça, bon, les gens vont commencer à publier des extraits de ses journaux intimes, de sa correspondance, et qu'un jour, on va commencer vraiment à parler de dépression et à s'y intéresser chez beaucoup de personnages de l'histoire, ben Sissi était vraiment une candidate dès l'enfance, en fait. Elle était prédisposée à la dépression. Et ça va être le frein peut-être à sa vie, tout en étant en plus condamné à un mode de vie qui ne correspond pas à sa personnalité.
Mais c'est ça que j'allais dire. Peut-être que si elle n'avait pas été impératrice, ses moments de mélancolie auraient peut-être été moins grands, moins forts, moins présents, plus distanciés. Tu sais, on le sait
Est-ce que ses enfants auraient survécu à l'âge adulte? On ne sait pas. Tu sais, je veux dire, il y a plein de facteurs, mais chaque événement trop émotif amenait des périodes de noirceur. Quand on la lit, ça semble... Elle semble être dans des ténèbres qu'on a de la difficulté à imaginer. Là.
Puis donc, Mais qu'est-ce qui s'est
passé? Les films versus la réalité.
Complètement différent, complètement ailleurs. Mais quand elle est décédée, ça a été quoi la réaction autant de la cour que du peuple?
Bien, comme je dis, la cour d'Autriche était presque contente, finalement, de la voir s'en aller parce qu'elle était un poids pour la monarchie. Tu sais, François-Joseph avait une maîtresse. C'était pas bien vu dans une cour très conservatrice. Donc, on lui en voulait beaucoup à Sissi. On lui en a voulu peut-être d'avoir élevé Rodolphe de manière un peu plus libre. Puis c'est peut-être ça qui a amené tout ce qu'il a fait. Mais Rodolphe semble avoir hérité vraiment de cette mélancolie qui était caractéristique de sa mère. Et on pense de son père à elle aussi. Maximilien de Bavière, pourquoi il résistait à la cour, il avait aussi de ce tempérament. Mais, je veux dire, elle va avoir ses funérailles d'État, puis dans les journaux, c'est la consternation parce qu'elle n'a rien fait. Elle est assassinée parce qu'on voulait une figure, un visage monarchique, impérial. C'est un anarchiste italien qui a fait ça, mais ce n'était pas elle la victime choisie au départ. Donc, c'est un concours de circonstances, encore une fois. Ça a ponctué sa vie, ça aussi. Donc, c'est la consternation dans les journaux. Les gens vont... Et en Autriche, le peuple va la pleurer. En Hongrie, il va y avoir des statues d'elle, il va y avoir beaucoup de commémorations. Encore aujourd'hui, Sissi, elle est en Hongrie considérée comme la reine de Hongrie. On n'a pas oublié Sissi ou sa gentillesse. Donc, son souvenir continue. Sa villa à Corfou, une des villas les plus visitées, tu sais, la Kyleion, Sissi, les gens capotent, là. Les palais de Vienne, les gens veulent voir les appartements de Sissi. Fuck les appartements de François-Joseph, on s'en fout. Les appartements de Sissi. Mais cette fascination-là existait avant les films, mais c'est sûr que les films des années 50 ont créé un tourisme sissinesque qui ne s'arrête pas depuis. Et en même temps, on a tellement associé Romy Schneider qui a eu une vie tragique aussi. À Sissi que avant que quelqu'un refasse un film sur elle, je le sais pas. Parce que les comparaisons vont être très lourdes. En même temps, est-ce que quelqu'un oserait faire un film qui est beaucoup plus près de la réalité que ce qu'on en a fait dans les années 50? C'est une autre chose.
Bien, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode, les séries historiques, les séries qui revisitent les grandes souveraines et tout. Donc, on le sait pas. Peut-être qu'on va avoir droit à une série télé sur Sissi. Et peu importe... Et
même Catherine de Médicis arrive sur Starz.
The Serpent Queen. Écoute, je sais ce que je fais ce soir. Je vais l'écouter, c'est sûr et certain.
Mais c'est ça, c'est que là où Romy Schneider c'est comme fusionné avec Sissi, on dirait que c'est comme une intouchable. Donc je sais pas si on va se risquer à retourner là pour l'instant. Mais une chose certaine, tant qu'à le faire, faites-le bien.
Mais moi, je vais donner un devoir aux auditeurs, ça va être d'aller googler Sissi pour voir une vraie image d'elle et non pas juste Romy Schneider en Sissi. Donc, c'est votre devoir que je vous donne aujourd'hui.
C'est un bon devoir, c'est quand même important.
Et maintenant, Evelyne, si tu n'as rien d'autre à ajouter sur Sissi, on va passer...
Je pense que... pour l'épisode tragédie, on a fait une belle tragédie.
Non, on va être correct pour un petit bout, je pense. On va alléger un peu l'atmosphère, en fait, et on va passer à la Minute Sexy présentée par Eros et compagnie.
Aha!
Donc, Evelyne, aujourd'hui, on va parler d'un bon vieux jouet sexuel qui existe depuis la nuit des temps, si j'ai bien compris.
Depuis l'Antiquité, autant méditerranéenne que chinoise.
Et c'est quoi le terme approprié?
Un anneau pénien.
Un anneau pénien. Parfait. Moi, j'ai toujours appelé ça un cock ring avec mon merveilleux accent.
En anglais, c'est un cock ring aussi.
Ouais, mais si on veut enlever les anglicismes de notre vocabulaire, il faut utiliser le terme anopénien, même si je trouve que ça sonne un peu moins sexy. Et tu dis que ça date de l'Antiquité, comment on sait? On en a retrouvé?
En fait, c'est qu'on on pense même que sur une statue grecque, il y en a un, on n'est pas sûr, il y a toujours eu des bas là-dessus. On en a trouvé dans des fouilles
archéologiques. Dans un musée, genre?
Oui, mais on en a trouvé dans des fouilles archéologiques aussi. Donc, c'est la Chine de sous la dynastie Jin. On est dans les années à peu près là 200, peut-être 40 après notre ère, quelque chose comme ça. Ça se peut que je ne sois pas juste sur les dates, là. Où là, dans des tombeaux et tout ça, on a trouvé des anneaux péniens en jade.
Oh, je veux dire,
bonjour le confort. Oui, aujourd'hui, on a du latex. Tu sais, il y a des choses qui peuvent bien fonctionner et peuvent être à la fois confortables et avoir l'effet voulu. Les Chinois utilisaient ça chez les hommes de la haute société parce que on avait des harems, on avait des concubines pour s'assurer que la lignée se poursuive. Donc, les hommes des hautes sociétés, pas juste les empereurs, avaient généralement plusieurs concubines. Et bien là, si vous voulez des héritiers et tout ça, bien, il faut performer sexuellement. Donc, on voulait des érections durables. Et c'est comme ça qu'ils vont développer les anneaux péniens. Mais au départ, ouais, ils vont en avoir en jade, en bronze. On pense aussi que du côté de la Grèce antique, c'était en bronze. Fait que, tu sais, faut que la mesure soit bonne.
Mais ça doit donc bien être lourd.
Non, c'est un peu comme une bague, là, tu sais. Ça rentre. Mais c'est ça. C'est pas confortable. Mais là, dans des textes chinois, on s'est rendu...
Il faut être fort du pénis.
Oui, mais c'est ça. Même pour les Romains, on pense que à la limite, en bois, peut-être aussi. Mais ça pourrit. On n'en a pas trouvé. Mais on suspecte que le bois peut-être pu être utilisé aussi pour les anneaux péniens dans la société romaine. Mais en Chine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des traces écrites de dit objet. Et comme il n'y avait pas de latex, c'est que oui, le jade, c'est bien beau, ça peut être lourd. on voulait quelque chose d'élastique et qui tienne bien.
Où est-ce qu'on s'en va? J'ai comme peur de ce que tu vas me dire.
On utilisait des yeux de chèvre.
Arc!
À l'image est là. Donc maintenant, vous comprenez que quand vous allez dans une boutique érotique, le choix est beaucoup plus intéressant. Vive la vulcanisation! Et le processus qui a amené au côté élastique du caoutchouc. Parce que, ben voilà, pour retrouver l'équivalent, en Chine, on utilisait des yeux de chèvre pour que ça tienne bien comme faut, mais que ce soit moins inconfortable que le bronze ou le jade. Et voilà.
Ben écoute, c'est bon à savoir, là, si jamais vous êtes mal pris puis que vous cherchez un cock ring, là, puis qu'il y a une chèvre à proximité, vous pourrez aller emprunter ses yeux.
Mm-hmm. Imagine l'image quand la dame voyait ça. Elle va peut-être vomir plutôt que d'avoir envie de s'offrir, mais bon.
Mais une chance. Aujourd'hui, les jouets sexuels ont bien évolué. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus confortable aussi. Et d'ailleurs, là, c'est le moment où ce que je vous plug un petit jouet sexuel qu'on va faire tirer sur notre page Facebook. Donc, vous allez vous abonner. Evelyne et Gabriel font un podcast. On va vous poser une petite question quiz. Vous répondez pour gagner la chance de gagner. Et Evelyne, cette semaine, on va faire tirer un vibrateur que j'ai choisi personnellement parce que j'adore la couleur qui... tu te demandais où est-ce que je m'en allais avec ça, hein?
Mission aujourd'hui, vraiment! J'attendais!
Non, mais pour vrai, quand vous allez voir l'image, vous allez voir que la couleur est vraiment sublime. Et aussi, on se cachera pas que sa petite fonction là, de deux stimulations à la fois est pas piquer des verres non plus. Donc, ça s'appelle l'artifice. Donc, je vous invite, si jamais vous gagnez pas puis que vous en voulez un, à aller sur le site d'Eros et compagnie, utiliser Histoire 15 pour un rabais, puis écoutez, on s'en redonnera des nouvelles, mais qu'on se croise.
Ben oui, commentez ça sur notre page, on va être bien contente.
Bon, ce balado dégénère, là, va falloir qu'on arrête.
C'était pour briser la noirceur de Sissi.
Ah, oh, j'ai eu chaud! Evelyne, merci vraiment beaucoup de nous avoir partagé toutes tes connaissances sur Sissi. Là, on s'entend que dès qu'on finit, je vais tomber dans un trou de l'Internet sur Sissi, très clairement.
Oui, tu vas voir plein de choses. Il y a des belles choses aussi quand même. Il y a des moments de sa vie qui ont été beaux. Ouais. On a des belles photos, des beaux portraits. Celui avec les cheveux détachés, je te jure, tu vas comme faire « wow ». Tu vas comprendre pourquoi elle était considérée comme une des plus belles femmes de son époque.
Oh, bon. Ben écoute, Evelyne, merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs. J'espère que ça a satisfait votre curiosité sur Sissi. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!
Au revoir!